Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangou. L'émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème du forum de ce soir porte sur la participation des personnes handicapées dans la vie politique au Niger. Selon le recensement général de la population et de l'habitat 2012 au Niger, les personnes handicapées représentent 4,2% de la population totale résidente, soit 715 497 personnes handicapées. Elles se retrouvent dans les différents types d'activités socio-économiques du pays. Cependant, leur participation pleine et effective à la vie politique n'est pas toujours garantie. Plusieurs facteurs expliquent cet état de fait, notamment les stéréotypes. Alors, quels sont les obstacles qui empêchent une représentativité des personnes handicapées à la vie politique et publique? Comment briser les barrières qui freinent la participation des handicapés pour qu'elles deviennent leaders? Quelle est la politique mise en place pour favoriser l'émergence des personnes handicapées au plan politique au Niger? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons invité Aïssa Seyni, conseillère à la ministre de la Population chargée des questions des personnes handicapées, ancienne candidate aux élections législatives et municipales 2020-2021. Bonsoir, Madame Aïssa.
Bonsoir, ça va?
Rahinatou Moussa, ancienne candidate également aux élections municipales. Bonsoir, Rahinatou.
Bonsoir également, Madame.
Je suis Fatih Zakari à la présentation de cette émission. Je commence par Aïssa Seyni, ancienne candidate aux élections législatives et municipales 2020-2021. Madame Aïssa, comment percevez-vous la question de la participation politique des personnes handicapées au Niger? Est-elle effective?
Bon, la participation politique des personnes handicapées, je peux dire que, en ce qui me concerne personnellement, c'est pas ma première expérience en termes de participation politique. Du moment que j'étais candidate aux élections municipales 2011 et j'étais élue conseillère régionale, et vraiment ça a marché. J'avais par la suite bénéficié d'un décret secrétaire général adjointe du gouvernorat de la région de Niamey, ce qui fait que le poste que je devais occuper en tant que conseillère régionale avait été légué à un autre candidat. Mm-hmm. Et moi, j'avais occupé mon poste de secrétaire général adjointe. Donc, la deuxième fois également, en 2016, j'étais candidate aux élections municipales. Mm-hmm. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et également, 2020-2021, j'étais également candidate aux élections municipales et législatives. Mm-hmm. La participation politique des personnes handicapées, tout ce que je pouvais dire en tant que candidate handicapée, c'est que les personnes handicapées veulent bien être membres à part entière de la société. Ils veulent participer à la vie publique et politique de leur pays. Mais le problème qui se pose, c'est surtout la population, la société en tant que telle. Les gens n'ont pas la même compréhension. Les gens ne voient pas, n'arrivent pas à voir les personnes handicapées au même titre que les autres couches de la population. Ce qui est vraiment écœurant. Moi, je pense que en tant que personne, à part entière, membre de la société, je ne vois pas de mal à ce qu'une personne handicapée, au même titre que l'ensemble des couches de la population, ne puisse pas se présenter comme candidat aux élections. Nous avons l'intention, nous avons la volonté, nous sommes déterminés et Inch'Allah, vous l'avez constaté, en 2020-2021, l'affluence des personnes handicapées qui veulent participer aux élections, que ce soit les élections municipales, législatives, un peu partout, les élections, les personnes handicapées se sont mobilisées. Et Inch'Allah, ce n'est que partie remise.
Rahinatou Moussa, vous êtes ancienne candidate aux élections municipales. Comment percevez-vous la question de la participation politique des personnes handicapées au Niger, est-ce qu'elle est effective?
Et effectivement, la participation des personnes handicapées à la vie publique et politique était un peu réticente les années passées. Mais vu ces dernières années, on peut dire alhamdulillah, parce que les personnes handicapées ont commencé à se mobiliser. Et notamment en 2016-2018, la Fédération nigérienne des personnes handicapées a eu le soutien de l'Union européenne sur un projet dénommé Participation à la vie publique et politique des personnes handicapées, notamment les femmes. Et ce projet consiste à sensibiliser les personnes handicapées à se faire voter et aussi à élire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que au moment des votes, les personnes handicapées ne sont pas actives dans les campagnes et aussi. Et ce projet a permis de faire des théâtres forums, des sensibilisations qu'on a eu à diffuser dans les médias pour que ces personnes handicapées puissent aller choisir leur candidat et aussi déposer leur candidature. Et c'est grâce à ce projet-là que en 2019 encore, on a eu un autre projet et de Oxfam Niger à travers leur programme Voice, toujours la participation des personnes handicapées à la vie publique et politique. Et cela nous a permis ici à Niamey d'avoir au moins 30 personnes handicapées qui ont déposé leur candidature aux élections et municipales, dont la majorité est des femmes. Et j'étais candidate aussi, et c'est grâce aussi à ces sensibilisations. Et ça nous a permis de montrer à l'opinion nationale que nous aussi, nous sommes capables de choisir. Et malgré que ça n'a pas marché, mais quand même, c'est une première expérience.
Vous avez été candidate aux élections municipales. Dites-nous, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à s'intéresser à la politique?
Les raisons qui m'ont poussé, d'abord, il y a un réseau qui est venu vers nous. Et c'était la Fondation Vision qui est venue vers nous pour nous sensibiliser que voilà, vous dites toujours que vous êtes en arrière. Vous dites toujours que vous n'avez pas vos droits, que vous n'êtes pas entendu par les autorités. Mais est-ce que vous pensez qu'en étant dans vos chambres, est-ce que cela peut arranger la situation des personnes handicapées? Et c'est grâce à ça que je me suis dit, bon voilà, je vais déposer ma candidature pour voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que je suis capable même de déposer une candidature? Est-ce que les gens vont me soutenir? Et malgré que ça n'a pas marché, beaucoup de gens étaient avec nous lors des campagnes. Et les partis politiques nous ont accueillis aussi à bras ouverts. Et voilà.
Et ça, Seynia, vous avez été candidate aux élections législatives et municipales. Quelles étaient vos motivations?
Donc, comme motivation, moi d'abord, j'étais membre d'un mouvement, Koukia. Koukia, c'est un mouvement qui regroupe les femmes, les jeunes et les personnes handicapées. Donc, je suis la présidente du bureau régional de Niamey, Koukia. Et en tant que femme et en même temps personne handicapée, je me dis que j'ai le devoir de me présenter, de montrer l'exemple pour les femmes et également pour les personnes handicapées. Donc, ce qui fait que j'ai déposé ma candidature en tant que candidate aux élections législatives et en même temps aux élections municipales. Il y a aussi la CDPH, la Convention relative aux droits des personnes handicapées. À travers cette convention, c'est un engagement signé par notre pays pour pouvoir respecter les droits des personnes handicapées. Et dans cette convention, il y a l'article 29 qui parle de la participation à la vie publique et politique des personnes handicapées. Donc, pour mettre en œuvre l'article 29 de la CDPH, je pense que les personnes handicapées sont les mieux placées pour pouvoir aider à mettre en œuvre cet article-là de la Convention. Nulle autre personne. Là, je ne pense pas qu'on puisse indexer que ce soit le pouvoir ou bien quelqu'un d'autre qui viendra le faire à notre place. Il faut nous, personnes handicapées, pour pouvoir mettre en œuvre cet article de la Convention-là. Donc, raison pour laquelle, en tant que conseillère chargée des questions des personnes handicapées, je me suis dit que j'ai le devoir de me présenter comme candidate, montrer l'exemple aux autres personnes handicapées qu'on est capable et surtout on va oser et Inch'Allah ça va marcher.
Comment vos partis politiques ont abordé la question de la participation des personnes handicapées?
Bon, il y a beaucoup de partis politiques je peux dire qu'ils ne sont pas tellement ouverts aux personnes handicapées. Comme il y a d'autres qui sont, ça dépend de l'appréhension que fait le leader du parti à travers les personnes handicapées. Moi, je pense que pour mon cas particulièrement, je n'ai jamais eu de problème de participation politique. En tant que personne handicapée, je ne vois pas de discrimination, encore moins d'offense à mon égard par rapport à mon handicap. En tout cas, au sein de mon parti politique, on m'a toujours apprécié, on m'a toujours accueilli à bras ouverts. Mais je constate quand même, au sein de certains partis politiques, que les personnes handicapées n'oseront même pas se présenter comme membres du bureau politique national, alors que c'est des partis qui doivent accueillir tout le monde. Vous êtes là en tant que parti politique, vous êtes censé accueillir tout le monde, pas de ségrégation, que ce soit en termes de handicap ou bien de détenir. Vous n'avez pas à faire de discrimination.
Et qu'est-ce qui explique donc cet état de fait?
C'est quelque chose de... Je peux dire que c'est même lié à notre culture. Quand on parle de personnes handicapées, on a tendance à voir quelqu'un, un membre entièrement à part, au lieu de les considérer comme des personnes à part entière, des membres à part entière de la société. Ça, c'est même, je peux dire que malheureusement, c'est même quelque chose d'inné, propre à notre culture, que les gens sont en train de continuer à perpétuer malheureusement. Et ça, en défaveur des personnes handicapées.
Et comment faut-il faire pour mettre fin donc à ces stéréotypes?
Pour mettre fin à ces stéréotypes, moi je pense que il n'y a pas 1000 solutions. Moi, je pense qu'il revient à nous autres personnes handicapées de prouver à nos sociétés qu'on n'est pas ce qu'on pense, qu'on est vraiment à la hauteur. On est à la hauteur au même titre que tout le monde. On peut réussir. Et quel que soit le poste qu'on nous confie, avant mon passage au gouvernorat de la région de Niamey, il n'y a jamais eu de femme. Il n'y a jamais eu de femme secrétaire générale. Je suis la deuxième femme secrétaire générale sur le plan national au Niger. Et j'ai fait 5 ans au gouvernorat de la région de Niamey. Je sais qu'il y a des hommes qui n'ont même pas fait 2 ans, ils ont quitté. Et moi, j'avais fait 5 ans. Et à mon passage au deuxième mandat, je devais continuer pour faire mon deuxième mandat. C'est de mon propre progrès que j'avais démissionné pour pouvoir me présenter aux élections législatives 2016. Autrement, j'allais même faire 10 ans, 2 mandats au lieu d'un seul mandat. Ce qui prouve que les personnes handicapées là ne sont pas ce qu'on pense. Il faut d'abord voir ces personnes handicapées à l'œuvre que de les juger avant même de les voir en fonction.
Tahinat Moussa, comment vos partis politiques abordent-ils la question de la participation des personnes handicapées?
Et en tout cas, nous, de notre côté, on n'a pas eu de problème d'accès au niveau du bureau national. Et aussi, à part ça, et j'ai eu à le dire avec le monde Koultia, dont la présidente est Madame Rachi, elle a eu à rencontrer tous les responsables des partis politiques nigériens pour leur donner des doléances des femmes, des jeunes et des personnes handicapées. Et dans ces doléances-là, ces partis politiques, ces responsables des partis politiques ont pris des engagements d'accepter les personnes handicapées au poste qu'ils désirent, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le problème qu'on a, c'est les personnes handicapées même qui ne sortent pas pour aller vers ces partis politiques-là. Et si la personne est membre du parti politique, on pense que pour être membre d'un parti politique, il va falloir dépenser. C'est l'engagement. C'est l'engagement, le courage. Qu'est-ce que je peux apporter à ce parti politique-là? C'est ça, de ça qu'il s'agit. Si je dois aller rencontrer le studio Kalango aujourd'hui, il faut que je cherche qu'est-ce que je veux.
Bien sûr.
Qu'est-ce que je veux? Et c'est ça qu'il nous manque, nous les personnes handicapées. Et on pense que non, c'est au parti politique de venir vers nous. Alors que c'est à nous d'aller vers eux pour leur expliquer, voilà nos doléances. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, j'ai une population derrière moi, alors venez, on va travailler ensemble. Donc, je pense que ces dernières années, vraiment, on n'a pas de problème avec les partis politiques. Et les personnes handicapées commencent aussi à prendre conscience, et surtout à la participation à la vie publique et politique aussi.
Tout à l'heure, vous disiez que les personnes handicapées sont réticentes donc, sur le plan en politique, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette donne?
Et les associations et les fédérations sont là en train de faire. C'est toujours des activités de plaidoyer, de sensibilisation. Et surtout les gens qui sont sur, les responsables qui sont là au niveau de ces associations, c'est à eux de donner le bon exemple. Et cela va attirer les autres. Parce qu'on a un slogan qui dit « rien pour nous, sans nous et avec nous ». Donc, si on veut que les choses changent, il faut que nous aussi, on met notre main dans la pâte pour que ça change. Mais mettre notre main, qu'est-ce qu'on apporte comme contribution? Il y a ça aussi. Donc, il faut que les personnes handicapées sachent que maintenant, les temps ont changé. Il faut qu'ils prennent conscience. Il faut qu'ils soient actifs dans la participation, pas seulement à la vie publique, même à la vie politique. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que la mendicité, il y a plus de 60%, ce ne sont pas des personnes handicapées. C'est parce que ces gens-là ont commencé à prendre conscience. Et c'est pour cela qu'on attire toujours leur attention par rapport aux activités de sensibilisation, de plaidoyer à travers les médias, à travers les ateliers et à travers les spots publicitaires. On est là en train d'attirer leur attention. Ça va prendre du temps, mais quand même, elles sont là en train de prendre conscience. Je vous ai dit qu'on a eu plus de 30 candidats à Niamey et à l'intérieur du pays. Ce n'est pas seulement à Niamey, même à l'intérieur du pays. Actuellement, à Maradi Outawa, le deuxième vice-maire, c'est une personne handicapée. C'est déjà une avancée. C'est déjà une avancée. À Agadez également. Donc, vraiment, c'est un appel. Ceux qui sont déjà en tête, c'est qu'ils donnent un bon exemple. Et ça va attirer les autres
les
à
autres,
venir.
Bien sûr. Et à part Monde Okurkia, est-ce que vous avez eu le soutien d'autres structures?
Le projet de Oxfam, qui consiste à donner aux candidats des séances de sensibilisation. C'est des séances de sensibilisation et le candidat profite pour faire sa campagne. Parce que c'est des ONG internationales. Ils ne font pas de la politique, mais ils font de l'accompagnement. Ils ont accompagné la Fédération nigérienne des personnes handicapées dans 4 régions, à savoir Niamey, Tillabéri, Maradi et Tawa. Et on a eu à faire plus de 150 séances par région de sensibilisation par rapport aux questions de la vie politique, sur la convention relative aux droits des personnes handicapées, sur la constitution de la République même, comment les personnes handicapées doivent se faire voter. Et on a aidé certaines personnes handicapées qui n'ont pas de carte d'électeur à avoir leur pièce d'identité. Parce que tant que tu n'as pas ta pièce d'identité, tu ne peux pas t'attendre à avoir ta carte d'électeur. Donc voilà comment on a eu. Mais à part ça, et moi, à ma connaissance, il n'y a pas une autre structure qui accompagne la
l'État. L'État ne fait rien pour vous?
Ça, je laisse la question à Hajia.
Est-ce ça, Ni?
Bon, l'État, vous savez, on ne peut pas dire que l'État n'a rien fait. Si l'État a le courage d'amener des partenaires qui font, c'est déjà un effort de l'État. Puisque quand on parle de partenaires, c'est des gens qui viennent accompagner les efforts de l'État. Et c'est à travers aussi des plaidoyers que ces partenaires-là viennent s'installer et avec l'autorisation de l'État. Donc moi, je ne pouvais pas affirmer que l'État n'a rien fait. Du moment que moi, je sais qu'avant les élections, l'État, le ministre, à travers le ministère de la Population, a beaucoup plaidé pour l'accessibilité des bureaux de vote aux personnes handicapées. La plupart des personnes handicapées sont réticentes pour aller même voter, parce que quand tu viens, les salles ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. On n'a pas pris des dispositions pour que tu puisses être à l'aise pour pouvoir effectuer ton vote. Donc, moi, je pense que ça viendra. Ce n'est qu'un pas qu'on a franchi. Nous allons pousser. Vous savez, quand on parle de candidature, surtout pour les élections, dans le contexte de notre pays, il y a deux aspects qui nous manquent. Il y a l'aspect financier. Et pour les personnes handicapées, c'est même doublement qu'on est frappé. Il y a non seulement l'aspect financier qui est là, et aussi l'effort physique. Quand, par exemple, il y a certains partis politiques dans ce pays-là qui imposent jusqu'à 10 millions de francs pour être candidat au poste de candidat aux législatives. Est-ce que nous, personnes handicapées, on peut être à la hauteur pour pouvoir être candidat à ces élections? À part ça, il y a la force physique. Pour battre campagne, Battre campagne signifie qu'il faut être physiquement fort mm-hmm. pour pouvoir faire la navette. On parle de campagne porte à porte. Mm-hmm. Est-ce qu'en tant que, en tant que personne handicapée, je peux même faire le tour de mon quartier, jusqu'à parler même mm-hmm. du tour de ma commune, jusqu'à faire le tour de ma région. Mm-hmm. Puisque quand on parle d'élection législative, mm-hmm. c'est un truc régional. Il faut faire porte à porte pour te vendre, si je pouvais utiliser le terme, alors que la personne handicapée est limitée dans ses mouvements. Mm-hmm. Tout ça là, c'est des aspects qui constituent des obstacles à nous, et nous allons, je dis que c'est juste un premier pas. Comment d'ici les élections, les prochaines élections à venir là, nous allons faire que nous puissions être à la hauteur, que ça soit financièrement et en même temps physiquement. Nous allons mettre en place un certain nombre de stratégies pour pouvoir être à la hauteur comme les autres candidats.
La participation sociopolitique consiste à pouvoir se faire représenter ou se présenter à des postes électifs. Est-ce que les personnes handicapées participent pleinement au processus électoral?
Bon, je peux dire que les personnes handicapées participent au processus électoral mm-hmm. du moment que les autres candidats, en tout cas, qui ne sont pas personnes handicapées, participent aux élections par l'intermédiaire de leur parti politique. Et nous aussi, on participe par l'intermédiaire de nos partis politiques. Donc moi, je ne vois pas de différence à ce niveau-là. La seule différence qui se trouve, je vous dis, c'est surtout les deux aspects-là, l'aspect financier et l'aspect physique. C'est ça qui nous manque.
Rahinatou Moussa, est-ce que les personnes handicapées participent pleinement aujourd'hui au processus électoral?
Et effectivement, les personnes handicapées participent pleinement au processus électoral. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les élections passées, vous avez vu comment les personnes handicapées, surtout vers Kouartadji, Boukoti, se sont mobilisées mm-hmm. pour aller voter leur candidat de leur choix. Mm-hmm. Puisque c'était ça le plaidoyer que la Fédération nigérienne des personnes handicapées est en train de faire. Mm-hmm. La Fédération va vers ces personnes-là et leur dit que allez-y prendre votre candidat de choix. Mm-hmm. L'essentiel, c'est de sortir de vos maisons mm-hmm. le jour des votes et aller voter. Mm-hmm. Vous avez vu dans les médias comment on voit les personnes handicapées suivre les rangs. Mm-hmm. Et le seul problème qu'il y a, mm-hmm. c'est que c'est au niveau des personnes aveugles. Normalement, mm-hmm. on doit laisser la personne choisir son guide mm-hmm. pour aller faire son choix. Et dans certains bureaux de vote, on a eu pas mal de problèmes de ça, mm-hmm. parce qu'on refuse à ce que la personne amène son guide. On lui prend une personne de confiance dans la salle, un assistant personnel dans la salle. Et l'assistant personnel que tu ne connais pas de quel parti politique il est. Mm-hmm. Il y a d'autres qui peuvent voter qui peuvent ne pas voter pour ton choix mm-hmm. que tu dis. Donc voilà le seul problème qu'on a eu. Mais sinon, les personnes handicapées, cette année, mm-hmm. se sont vraiment mobilisées. Je peux dire qu'à 75% même, ils se sont mobilisés, que ce soit à Niamey ou à l'intérieur du pays. La seule difficulté qu'on a, c'est au niveau des villages, mm-hmm. là où on n'a pas eu une supervision totale mm-hmm. et pour voir réellement est-ce que les personnes handicapées sont sorties voter. Mm-hmm. Et cette année, on a eu des personnes handicapées qui étaient des observateurs mm-hmm. au niveau de la CENI. Mm-hmm. Ça, c'est une avancée aussi. Mm-hmm. Ça veut dire que la CENI a pris en compte certaines de nos préoccupations, de nos recommandations. Et on espère que les recommandations qu'on a eues à faire cette année, qu'elles seront prises en compte pour les années prochaines aussi. Voilà.
Avant d'entamer la deuxième partie de cette émission, nous allons écouter le secrétaire général adjoint de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, Mahamadou Oumarou. Mahamadou Oumarou était également candidat aux élections législatives précédentes.
Je peux dire que la participation à la vie publique et politique des personnes handicapées est à un stade embryonnaire. C'est vrai que les élections passées, là, il y a eu des personnes handicapées qui se sont présentées aux élections locales et aux élections législatives. Moi-même, j'ai été candidat aux élections législatives. Mais je peux dire que la situation, vraiment, elle mérite d'être encore travaillée parce que comme vous le savez, d'abord, pour être candidat, il faut avoir les moyens. Les personnes handicapées font partie des groupes vulnérables les plus pauvres des pauvres. Au sein des partis politiques aussi, n'a pas un parti qui n'est pas membre d'un grand parti politique, ce n'est pas facile.
Et est-ce qu'aujourd'hui, les personnes handicapées participent pleinement au processus électoral?
Oui, bon, je ne peux pas dire pleinement, mais on est à nos débuts. C'est-à-dire, il y a encore des partis politiques qui sont ouverts pour les personnes handicapées. Et il y a des personnes handicapées qui sont aussi motivées et engagées dans la vie politique. Et toujours cette question d'autonomisation des personnes handicapées ou de donner un pouvoir économique aux personnes handicapées s'avère nécessaire. Donc, il faudrait à ce que soit les partenaires accompagnent ce processus d'inclusion des personnes handicapées dans la ou bien que l'État lui-même prenne des dispositions à travers des mesures positives. Comme il a donné le quota aux femmes, il peut donner un quota électif aux personnes handicapées de manière à ce que dans chaque conseil, on puisse avoir une personne handicapée qui est élue conseillère ou bien à l'hémicycle, on peut faire en sorte à ce que au moins 1% ou 2% ou 3% soit des députés personnes handicapées. Donc, c'est des choses qui existent déjà dans les autres pays, comme en Ouganda, comme en Zambie. Voilà, donc pourquoi pas au Niger.
Que fait la fédération pour promouvoir la participation politique des personnes handicapées?
Bon, la fédération, elle a fait le plaidoyer au niveau des partis politiques à travers un projet financé par Oxfam et le programme Voice. Et donc, c'était un projet qu'on a intitulé « Agir pour une meilleure jouissance des personnes handicapées à la vie publique et politique ». Donc, ce projet-là a permis de sensibiliser aussi les membres de la CENI pour que le recensement biométrique soit inclusif, pour que les élections soient inclusives. Donc, les partis politiques aussi ont été sensibilisés et les personnes handicapées elles-mêmes ont été sensibilisées sur leur droit de participer aux élections et pour être élus et pour être électeurs aussi. Donc, c'est tout ça là que la fédération a eu à faire dans le cadre de la participation à la vie publique et politique des personnes handicapées.
Monsieur Mahamadou, en tant que candidat handicapé, quels étaient les principaux obstacles auxquels vous avez été confronté durant le processus électoral?
Vraiment, je peux dire que dans un premier temps, on peut parler du fait que je n'avais pas suffisamment de moyens pour battre campagne. C'est vrai que j'ai reçu un appui de Oxfam et pour la médiatisation de ma campagne électorale, mais je dirais que il y a le fait aussi que, c'est-à-dire, mon parti n'était pas tellement connu dans la circonscription qui est Niamey, comme c'est un nouveau parti politique que j'ai intégré. Donc, c'est tout ça là qui ont constitué un obstacle pour moi.
Vous avez été élu?
Non, pas du tout.
Comment expliquez-vous votre résultat?
Bon, pour moi, il est satisfaisant parce que d'abord, ça m'a permis d'acquérir des expériences, mais aussi de me faire connaître et de faire connaître mon parti politique. Donc, je me dis que c'est un début et puis l'échec est une réussite. Il faut savoir en tirer les leçons et tout. Prochainement, peut-être je vais partir de mes échecs pour aller vers la réussite.
Vous avez donc suivi le secrétaire général adjoint de la Fédération nigérienne des personnes handicapées relativement à ce sujet. La deuxième partie du forum est consacrée aux contraintes liées à la participation effective des personnes handicapées dans la vie sociopolitique. L'article 1er de la Constitution, en son alinéa 4, stipule que l'État veille à l'égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur promotion et ou à leur réinsertion sociale. Pouvez-vous donc nous décrire la réalité à propos de l'application de cette disposition de la Constitution, Reynet Moussa?
Je peux dire que cet article n'est pas appliqué au Niger parce que nous avons eu seulement 2 candidats aux élections législatives. Nous, les personnes handicapées, on n'a pas un représentant à l'Assemblée nationale. Donc, je peux dire que ce décret n'est pas appliqué au Niger. Si c'est réellement appliqué dans 180 députés ou bien j'ai oublié...
171, je pense.
171, le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Même si c'est 100 personnes, on peut au moins prendre ces deux. On a seulement eu deux, un homme et une femme. Donc, ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'Assemblée nationale. Mmh. Et aussi, les personnes handicapées qui se sont représentées au niveau des législatives, à ma connaissance, à Niamey, il n'y a pas une qui a occupé un poste. Il n'y a pas une place au niveau que ça soit des mairies ou bien au niveau de la ville. En tout cas, à Niamey, non. C'est seulement dans les régions que ça a été appliqué. Et ça aussi, ça dépend du poids de la personne. Je me suis dit que c'est ça. Ça dépend du poids de la personne. Et ça dépend aussi des responsables de la région. Comment ils sont par rapport aux questions du handicap. Et vraiment, ces décrets-là n'est pas appliqué. Ni le décret de la Constitution, ni le décret dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ni aussi l'ordonnance 92, où l'État dit que 5% des quotas sera réservé aux personnes handicapées en cas de recrutement. Nous, on s'est dit que pour aller à l'Assemblée nationale, c'est aussi un recrutement que l'État a eu à faire. Donc vraiment, ce décret n'est pas respecté au Niger.
Et Saini, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire
Yéné? Oui, bien ajouter. Moi, je vois plutôt l'article 22 de la Constitution. C'est l'article 22 qui dit que l'État veille à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Donc là, on retrouve ces couches vulnérables-là dans ce même article 22-là. Et c'est dans cet article 22 qu'ils ont soutiré les femmes. Et on a attribué un quota qui ne fait que s'accroître. Un quota pour les femmes. S'il y a un quota pour les femmes, pourquoi pas de quota pour les personnes handicapées? On voit quelque part les gens de la diaspora qui ne résident même pas au Niger qui ont leur quota. Alors que nous, on fait 4,2% de la population. Là, on ne pouvait pas parler d'égalité. Alors que cette même constitution, qui est la loi suprême de notre pays, parle dans son article 26, il dit que l'État veille à l'égalité de chance des personnes handicapées en vue de leur insertion ou de leur réinsertion. Donc là, moi je vois même une contradiction entre l'article 22 et l'article 26. Puisque si l'État prend cet article 22-là, il met ça en action, on allait avoir une solution pour l'article 26, c'est-à-dire le quota pour les personnes handicapées, en bonne et due forme. Comme les gens de la diaspora et les femmes. Il n'y a jamais eu, il y a comme de 92 à ce jour, il n'y a jamais eu de quota pour les personnes handicapées. Alors que quelque part, on voit souvent à travers vos médias, moi je vous indexe directement, à travers vos médias, on parle toujours, on voit toujours des émissions qui traitent de la mendicité. Donc, nous sommes à plus de 98% musulmans dans notre pays. Mais que font nos frères et sœurs musulmans pour pouvoir arrêter cette mendicité-là? La participation politique-là, ça fait partie aussi de l'accompagnement des personnes handicapées. Pour les aider à lutter contre la mendicité, il faudrait les accompagner au même titre que tout le monde. Imaginez que s'il y avait un quota, comme ces femmes, ou bien comme ces gens de la diaspora-là. Les personnes handicapées, façon dont nous avons souffert au cours de ces élections, on allait carrément appliquer ce quota pour qu'on puisse avoir ne serait-ce que un ou deux représentants à l'Assemblée nationale. Ça allait faciliter la mise en œuvre de beaucoup de textes, à savoir aussi la loi 2019-02 sur l'insertion des personnes handicapées. Cette loi-là parle de l'ensemble des droits fondamentaux pour l'ensemble des personnes handicapées. Jusqu'à ce jour, de 2019 à ce jour, on n'a pas encore de décret d'application pour cette loi. Alors que si on avait un représentant à l'Assemblée, on allait avoir beaucoup de solutions pour les problèmes des personnes handicapées.
Voilà, le temps est contre nous. Nous passons donc à la troisième partie de cette émission sur les dispositions prises pour une participation politique effective des personnes handicapées. Rahinette Moussa, quelle est la politique mise en œuvre par les autorités pour permettre aux personnes handicapées de jouir de leurs droits?
Et au Niger, vous savez, on est super en matière de signature, de textes, de décrets, d'ordonnances, de je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Avant même la convention relative aux droits des personnes handicapées, qui est une convention internationale, le Niger a déjà certains décrets et ordonnances en faveur de la protection sociale des personnes handicapées. Mm-hmm. Mais on voit toujours que ces décrets, ces lois ne sont pas appliquées. Mm-hmm. Ils sont là, mais ils ne sont pas appliqués. Et certes, il y a quelques-uns qui sont appliqués, quand vous prenez par exemple le quota de 5% réservé aux personnes handicapées en cas de recrutement. Mm-hmm. L'État dit toujours que en cas de recrutement, 5% doit être réservé aux personnes handicapées. Ce 5% est respecté, mais d'une autre manière. Par exemple, quand vous prenez ici le concours des agents du ministère des Finances, moi j'ai eu à concourir. Ils ont demandé seulement 3 administrateurs pour la communication. Il y a des personnes handicapées. Pourtant, ils ont pris des personnes valides. Quand on est parti réclamer, ils ont dit que voilà, on a demandé 45 ou 48 comme ça pour le compte du ministère des Finances. Et les 5%, ils n'ont pris que des techniciens de surface, c'est-à-dire les sourds qui font les ménages. Ils n'ont pris que des techniciens de surface. C'est vrai, ils ont respecté le quota, mais d'une autre manière. Vous voyez? Donc, c'est comme si pour eux, la personne handicapée n'a pas le droit de faire des longues études. Si c'est ça, vaut mieux aller prendre les balais de nos mamans et serpillères pour apprendre comment on doit laver les carreaux et autres dans les bureaux. C'est ce que ça veut dire. Quand vous prenez comment on appelle, la prise en charge sanitaire pour les personnes handicapées, c'est seulement à Niamey. Et à Niamey aussi, c'est seulement les hôpitaux nationaux que ça marche. Même à Niamey, il y a certaines qui ont des difficultés à y accéder. Pourquoi pas dans les régions? Pourtant, à Niamey, je ne peux pas dire que les personnes handicapées n'ont pas de problème. Mais quand même, ils arrivent à s'en sortir. Mm-hmm. Ce sont nos mamans, nos papas, nos sœurs qui sont dans les régions qui ont besoin de ces prises en charge-là. Il y a pas mal de textes en faveur des personnes handicapées que l'État a ratifié. Mais c'est l'application qui cause problème. La Fédération toujours des personnes handicapées a eu à organiser une table ronde où le président de la République, le premier ministre, le premier ministre de l'époque a pris l'engagement de tout prendre en charge les recommandations des personnes handicapées. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on voit? Même le fonds d'aide qui était de 50 millions a été dissous, carrément. Donc nous, on s'est dit pourquoi même on a fait cette table ronde. Parce que si on fait cette table ronde, c'est pour qu'on puisse rehausser le fonds. Ils nous ont pris l'engagement que ça sera rehaussé de 50 millions à 150 millions. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on voit? Ça a été dissous, carrément.
Voilà, nous allons rapidement écouter Aïssa Saïni,
vos
propositions et recommandations.
Recommandations à l'endroit de l'État d'abord. Mm-hmm. À l'endroit de l'État, j'ai juste 3 points, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'article 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cet article, je dis bien, parle de la participation à la vie publique et politique des personnes handicapées. C'est un engagement pris par l'État au niveau international. Donc, moi, je pense que pour pouvoir mettre en œuvre cet article 29-là, l'État doit carrément utiliser ce quota-là, réserver un quota pour les personnes handicapées. À part ça, il y a aussi l'accessibilité. L'accessibilité décourage beaucoup les personnes handicapées. Tu viens toi-même candidat, tu n'as pas accès à ton bureau de vote. Qu'en est-il des autres personnes handicapées que tu as mobilisées pour venir voter pour toi? Ils vont ramper à même le sol, ils vont faire la queue avec tout le monde pour pouvoir accéder au bureau de vote. Moi, je pense qu'il y a ces deux aspects-là. Et carrément, l'accompagnement financier. Il y a un fonds national de soutien aux personnes handicapées que le Niger a pris à travers un décret, l'ordonnance 99 là, c'est une ordonnance prise depuis 99. Il faut accompagner financièrement les personnes handicapées pour qu'elles soient à l'aise, autonomes, indépendants et pouvoir se présenter à ces élections-là. On ne pouvait pas participer aux élections bras ballants et prétendre avoir quelque chose. Donc, à part l'État, il y a aussi les personnes handicapées. En tant que personne handicapée, il faut être dans la peau de ces personnes handicapées pour comprendre ce qu'ils ressentent. Il faut vivre leurs problèmes pour pouvoir prétendre avoir des solutions. Moi, je pense que la solution pour nous tous, c'est de s'unir entre nous, personnes handicapées, voir comment mettre en place une stratégie pour avoir ne serait-ce qu'une ou deux représentants dans l'hémicycle. Et ça, Il faudrait qu'on s'assied ensemble, trouver une solution à notre problème commun. Nous avons un problème commun et c'est une solution commune qu'il faut avoir pour pouvoir résoudre ce problème-là. Pas de déception. Ce n'est que partie remise pour ceux qui se sont présentés. On était partis. On a prouvé à l'ensemble des Nigériens qu'on peut. Maintenant, il faut plaider du côté de l'État. On ne va pas attendre les élections pour réagir. Les élections se préparent dès maintenant. Les prochaines élections 2025 doivent être préparées en 2021. À partir de 2021, il faut plaider à un haut niveau pour qu'on puisse avoir des solutions globales à notre problème. J'en ai fini, je vous remercie.
Vous avez des propositions et recommandations pour en perspective une meilleure participation politique des personnes handicapées?
Les recommandations qu'on a, c'est toujours par rapport à l'application des textes. C'est surtout ça notre problème. L'application des textes et l'application de la carte de solidarité. Parce qu'il y a une carte de solidarité que la fédération a soumise à l'Assemblée nationale pour que ça soit voté. Et cette carte de solidarité, ça donne vraiment une chance de survie, si je peux me permettre de dire, aux personnes handicapées. Et aussi, de donner la chance aux personnes handicapées d'avoir des représentants, pas seulement à l'Assemblée nationale. Même dans le gouvernement, on n'a pas une personne handicapée. Même dans le gouvernement. C'est de venir vers la fédération, leur demander de proposer une personne handicapée qui soit un répondant, même si c'est la direction nationale réservée aux personnes handicapées, que ça soit géré par une personne handicapée dynamique, qui connaît le problème des personnes handicapées. Que cette personne soit choisie par la fédération même, qui n'impose pas aux personnes handicapées. Voilà ce que nous, on a à demander.
Nous sommes donc au terme de ce forum sur la participation des personnes handicapées dans la vie politique au Niger. Nous étions donc en compagnie de Aïssa Seyni, conseillère à la ministre de la Population chargée des questions des personnes handicapées, également ancienne candidate aux élections législatives et municipales 2020-2021. Rahinatou Moussa, ancienne candidate aux élections municipales. La présentation était assurée par Fatih Zakari, la technique Issa Lawoli. Merci donc de suivre le programme du studio Kalangou.